I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit à une architecture qui nous ressemble sans pour autant renier nos racines? Eh bien, il y a 80 ans, un architecte égyptien avait déjà posé cette question, à un âge où le modernisme était la mode et la seule manière de faire de l'architecture. Il s'appelait Hassan Fathi. Il construisait sans béton, sans clim, sans copier l'Occident. Il était fier de sa culture et voulait construire avec les gens. Mais malgré tout ça, malgré les prix qu'il a reçus, malgré les livres, malgré la reconnaissance, malgré les voyages et malgré tout le parc bâti qu'il a fait, on l'a oublié. Alors aujourd'hui, on va se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a effacé l'un des seuls architectes qui construisait vraiment pour les gens? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui aujourd'hui? Cette fois-ci, je vous emmène en Égypte en 1940. Le pays sort lentement d'un siècle d'occupation britannique, mais elle n'est pas encore totalement sortie d'affaire. Ces derniers ne quitteront l'Égypte qu'en 1956, après la crise du canal de Suez. C'est donc dans ce contexte très critique que résonne dans tout le pays une volonté d'affirmer son identité, sa culture et son histoire, et surtout de montrer que le pays peut être moderne. Le ministère des Affaires sociales de l'époque alors se lance dans un projet de construire des villes nouvelles. Et donc, entre 1946 et 1953, on voit naître des programmes de logements populaires à très grande échelle et partout dans le pays. Et bien sûr, qui dit moderne à l'époque dit blocs massifs de béton, façades vitrées, construction verticale, tours. Il faut complètement oublier son histoire. Parce que là, on veut le futur, on veut la nouveauté, on veut ce qui est sexy. On se retrouve donc avec des espaces impersonnels qui ne répondent ni aux demandes des habitants, ni à leurs besoins. En fait, ça correspond plus à un fantasme. Un peu comme, je sais pas si vous avez grandi dans les années 2000, mais à ce moment-là, en 2050, on s'imaginait que ça serait un futur absolument incroyable, avec des voitures volantes. Et ben, le modernisme, c'était un peu ça à l'époque. C'était en fait ce rêve d'une modernité et d'un futur totalement inatteignable. C'est donc dans ce contexte-là que Hassan Fathi rentre en jeu. Un village va être rasé, sa population complètement relocalisée. À bas les traditions, il faut du neuf. Comme je vous l'ai dit, on veut du moderne, on veut du sexy. L'histoire, ça nous intéresse pas. Sauf que ce village, c'est Gourna, et la spécificité de ce village, c'est qu'il abrite une des plus anciennes nécropoles de l'Égypte. Et le truc, c'est que les gens qui vivent là-bas ben, sont extrêmement attachés à cet endroit, à leurs traditions et à leurs histoires. Et donc Hassan propose une autre voie. Au lieu de les relocaliser, au lieu de les déloger, au lieu de leur dire ben, « cassez-vous », il plaide pour une expansion du village. Une relocalisation douce, si on peut utiliser un terme comme ça. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le gouvernement de l'époque accepte sa proposition. Ce que va faire Hassan, c'est qu'il va aller à Gourna, c'est qu'il va rencontrer les gens là-bas, étudier leur culture, étudier leur histoire, et essayer de comprendre ce dont ils ont réellement besoin pour vivre. C'est là qu'il conçoit son projet le plus célèbre, un nouveau village, avec toutes les commodités modernes qu'on pourrait attendre dans un village dans les années 40. Et donc, dans ce nouveau village, il y aura une mosquée, un théâtre en plein air, des écoles, des habitations, des places publiques, bref, tout ce qu'il faut pour bien vivre dedans. En fait, ce qui est surtout très intéressant, et pourquoi je voulais vous parler de cet architecte-là, c'est qu'il ne va pas construire en béton alors que c'est la grande mode à l'époque. Bah là, il va construire avec les techniques locales, c'est-à-dire qu'il a étudié les maisons là-bas, comment elles étaient construites, et il en a tiré ce qu'il y avait de meilleur. Et c'est là qu'il va construire en fait avec des briques de terre crue qui vont permettre en fait une très bonne inertie thermique et surtout à avoir des habitations qui sont totalement adaptées à la chaleur ambiante. Et aussi, chaque maison sera composée avec une cour intérieure qui va permettre une bonne ventilation durant toute la journée. Et va même plus loin, il va étudier l'architecture du coup de ces cryptes et utiliser ce qu'on appelle des voûtes nubiennes dans l'architecture du village. Et donc petit à petit, la construction commence, le village avance. Mais très rapidement, le projet va se heurter à de nombreux problèmes qui vont entraîner sa mort. Et pas la mort de l'architecte, la mort du projet. Donc, plusieurs problèmes. D'abord, Le contexte politique, parce qu'on est en Égypte et la construction se passe durant les années 50. Et en 1952, un coup d'état militaire place Nasser au pouvoir. Par conséquent, le projet de New Gourna, perçu comme un symbole de l'ancien régime politique, perd tout son soutien. Et ensuite, et j'ai envie de dire que c'est peut-être le point le plus important de ce que Hassan Fathi décrira plus tard comme son plus grand échec en tant qu'architecte, la population locale. Beaucoup des nouveaux habitants trouvent l'architecture beaucoup trop proche de l'architecture funéraire auquel ils sont habitués et donc n'associent pas forcément ce nouveau village à un lieu où habiter, mais plutôt un lieu extrêmement lié avec la mort. Hassan Fathi était convaincu du bien fondé de son architecture et du fait qu'elle allait être très appréciée, mais les habitants ne peuvent pas passer outre le langage funéraire qu'utilisait son projet. Et c'est peut-être l'une des leçons les plus importantes si vous êtes architecte, c'est que, au final, l'architecture, on l'a construit pour qui ? On l'a construit pour les gens. Et Hassan Fathi aura appris cette leçon à ses dépens. Par conséquent, le projet s'achève. Il ne s'achève pas, en fait, il est juste inachevé, incompris et laissé dans l'ombre. Et du coup, il en tire une leçon, comme je vous ai dit, et il va même écrire un livre, Construire avec le peuple, que je n'ai pas encore lu, mais si jamais ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, le temps que je trouve, comment mettre la main dessus. Et donc, il y théorise donc ce qu'il a appris à Gourna, qu'un architecte ne peut pas théoriser sans comprendre fondamentalement les gens pour qui il construit. Car selon lui, un architecte ne peut pas imposer sa vision. Il plaidoie que la participation locale, l'écoute des habitants, la transmission de la culture sont essentielles à un projet humain. Alors pour le restant de sa carrière, Hassan Fathi part dans un espèce de grand pèlerinage. Il va enseigner dans de nombreuses universités, notamment aux États-Unis, et surtout il va réaliser de nombreux projets et parfaire son art dans de nombreux pays. Et chacun de ces projets sont salués par la critique, par leurs habitants. Il reçoit même en 1980 pour tout ce travail-là le prix Aga Khan d'architecture. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est une distinction internationale qui récompense en fait les projets les plus remarquables du monde musulman. Ce qui allie qualité architecturale, responsabilité sociale et surtout représentation culturelle. Et donc, à partir des années 60 jusque dans les années 80, Hassan Fathi devient une figure architecturale incontournable. Là, je vous vois venir. Vous êtes en train de vous dire dans votre tête: ok, il a l'air génial ton architecte, et apparemment il a reçu des prix, il a fait le tour du monde, il est connu de partout. Mais pourquoi on l'a oublié en fait? Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est juste un titre putaclic que tu nous as mis au début, juste histoire de garder notre attention? Non. Non, en fait, je sais que c'est difficile à comprendre pourquoi il a été oublié, mais je pense que mes auditeurs marocains et non-européens comprennent déjà un peu la situation. Et pour le reste, je vais vous expliquer pourquoi cet oubli fait un peu sens, malheureusement, et cache un problème assez profond dans l'éducation de l'architecture aujourd'hui, qu'on devrait peut-être songer à changer. Bon, déjà, le premier facteur pour expliquer le fait qu'on oublie Hassan Fathi aujourd'hui, c'est que le gars était complètement à contre-courant du mouvement architectural de l'époque, à savoir le mouvement moderne. Porté par des figures très connues comme Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright. Vous l'aurez compris, l'architecture dans les années 50 à 80, et je dirais même encore aujourd'hui, un peu bizarrement, parce que le mouvement a plus de 100 ans maintenant, elle célébrait principalement le béton, le minimalisme, l'écriture des façades simples, le rejet de l'ornementation, la rupture avec son histoire, avec l'architecture traditionnelle, et surtout une architecture qui était vue comme une, Le Corbusier l'appelait très justement, une machine à habiter. On célébrait l'industrialisation, on célébrait le progrès, et Hassan Fathi, vous l'aurez compris, il était totalement à l'opposé de ça. Il célébrait la terre, il célébrait le vernaculaire, il célébrait une architecture qui s'inspirait des traditions et qui les réadaptait à aujourd'hui, au lieu de cette rupture franche qu'on voyait à l'époque. Ensuite, et c'est surtout mon deuxième point que je trouve plus intéressant dans le contexte de cette vidéo, la mémoire de Hassan Fathi est victime d'une formation architecturale profondément européano centré. Pendant ses études, on apprend à faire de l'architecture, on apprend l'histoire de l'architecture. Mais quand je parle d'histoire d'architecture, c'était très simple au niveau de la progression. On apprenait l'architecture antique, l'architecture mésopotamienne, puis très rapidement on passait sur la Renaissance, et on a eu un gros focus à l'architecture des années 40 aux années 80-90. Et vous l'aurez compris, on ne parlait ici uniquement de l'architecture occidentale. Alors vous me direz, oui, tu as fait tes études en France, tu t'attendais à quoi ? Mais d'un autre côté, quand on veut apprendre l'architecture, c'est intéressant d'avoir une vision globale sur la totalité de ce que l'humanité a produit. Ce n'est pas que l'Europe qui a la clé de tout. C'est tout aussi intéressant de voir comment d'autres cultures se sont appropriées leur environnement d'habitation. Et je serais très curieux de savoir si vous avez étudié dans d'autres pays, si vous avez étudié au Maroc, si on vous apprend un peu l'histoire de notre architecture à nous, et une histoire qui sort un peu des canons européens de l'architecture. Et le résultat est là, en fait, c'est qu'on a une seule bonne manière de faire de l'architecture. Et c'est franchement dommage, parce que la raison même qui m'a poussé à devenir architecte de base, c'était ma curiosité insatiable de savoir comment les choses fonctionnaient. Et surtout, de mon questionnement profond de l'état de nos villes. On se pose des questions, où est-ce qu'on va ? Pourquoi tout est si impersonnel ? Et c'est vraiment pour répondre à ce genre de questions-là, pour apprendre notre histoire, pour savoir comment est-ce qu'on construisait avant, que je suis devenu architecte. Et puis même, durant mes études, on m'apprenait que mon héritage était maniéré, inadapté, ringard. Il y a quelque chose qui clochait. Et avec ces vidéos, j'espère qu'ensemble, on va pouvoir en apprendre un peu plus sans se restreindre à un seul canon d'explication. Bon, c'est bien beau de se lamenter 5 minutes, mais je préfère me concentrer sur ce que nous a appris dans cette vidéo la philosophie de Hassan Fathi. Ce que je voudrais qu'on retienne un peu de cette vidéo, c'est que pour innover, il faut comprendre et savoir d'où l'on vient. Il y a un trésor caché dans la sagesse locale. Il faut avoir le courage d'aller la rencontrer, il faut avoir le courage de l'étudier, d'essayer de capter ce savoir qui ne se trouve pas dans les livres, mais dans la réalité. Cette sagesse que, pendant un temps, on a trouvé trop ringard, inadapté, qu'il a fallu effacer, mais qui encore aujourd'hui résiste. Cette sagesse qui fait qu'un bâtiment, on l'appelle une maison. Cette sagesse qui fait qu'un petit village banal, que ce soit dans les montagnes marocaines, que ce soit ou ici en France, nous paraît si hospitalier, qu'il y a un charme indescriptible dedans. Et je ne suis pas vraiment le seul à penser comme ça, et cette pensée-là n'est pas vraiment nouvelle, elle existait il y a plus de 100 ans, hein. Mais elle est aussi portée par de grands architectes aujourd'hui. On peut penser aux productions de Francis Diébédo-Kéré, qui est le premier architecte africain à avoir reçu le prix Pritzker, qui est l'équivalent du prix Nobel en architecture. On peut penser au travail de Studio Lada, qui essaye de faire revivre une espèce d'architecture vernaculaire mais contemporaine, en particulier en France. Ou on peut encore penser à Atelier BE ou aux travaux de Aziza Chaouni et de tout leur travail de faire renaître et de faire briller le patrimoine culturel marocain en architecture. Ceux que je viens de citer et d'autres que j'ai oublié de citer, on peut les considérer comme les successeurs de Hassan Fathi. Ils font perdurer sa philosophie, une philosophie que je trouve extrêmement importante aujourd'hui. Ils bâtissent avec le déjà-là, avec les gens, avec le climat, avec le contexte local. Ils ont pour ambition de créer une architecture qui respire, qui a une âme, qui a une odeur, qui a une présence, qui raconte quelque chose. Face à l'urgence climatique, à l'uniformisation de la culture, ils ont choisi la simplicité, la modestie, la sagesse du local. Parce que dans un présent en perte de repères et d'identité, c'est peut-être un architecte oublié qui nous montre la voie à suivre. Ce que notre monde cherche désespérément aujourd'hui, c'est ce que Hassan Fathi a trouvé il y a plus de 80 ans. À nous de faire perdurer sa philosophie.